Donc, séance 12 de notre parcours Nouvelle Alliance. Et pour ceux qui sont arrivés en cours de route, aujourd'hui, on voit un des sujets les plus importants de notre foi, parce que c'est ce qui fait vraiment une des spécificités de notre foi chrétienne, c'est le fait de croire que Dieu lui-même, pas un représentant, pas un envoyé, pas quelqu'un qui est chargé par Dieu d'aller donner un message, mais que Dieu lui-même a voulu se révéler à nous pour que nous puissions le connaître. Vous savez que c'est le cœur de toutes les religions. C'est de se dire, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui croient en une idée de Dieu, même ce qu'on appelle, par exemple, les personnes qui sont agnostiques, vous voyez, c'est le fait de croire en une idée d'un Dieu, de ne pas être contre en tout cas, mais de dire qu'on ne peut pas connaître l'être divin. On ne peut pas le connaître. Il nous dépasse. Donc, en fait, on n'est pas contre l'idée qu'il y ait quelqu'un. Par contre, on ne peut pas le connaître. Et le propre des religions, c'est de dire que si on peut le connaître, et donc c'est pour ça qu'il y a différentes religions, c'est qu'en fait, en fonction des différentes religions, on va dire, bon ben en fait, Dieu est comme ça. Vous voyez ? Et donc, dans la religion chrétienne, on dit que c'est même pas l'homme qui essaye de savoir qui est Dieu, mais c'est Dieu qui s'est lui-même révélé pour que l'homme puisse connaître Dieu. Vous voyez, là on est vraiment au cœur de notre foi. C'est de se dire, il y a quand même un truc de dingue, et Dieu lui-même vient se révéler. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. L'incarnation, c'est le fait de dire que Dieu lui-même devient un homme. Vous voyez, ça c'est le cœur de notre foi chrétienne. C'est ce qui bloque avec différentes religions. Vous voyez, par exemple, si un jour vous parlez avec quelqu'un qui est musulman, et vous lui parlez de cette question-là, il sera d'accord avec vous pour vous dire que Jésus a existé, que Jésus est un grand homme, que Jésus est un prophète, qu'il a fait plein de choses. Par contre, le moment où vous dites « Jésus est Dieu », là, il y a un blocage total. Et je prends l'exemple des musulmans, mais vous voyez, il y a plein d'autres religions où, en fait, le fait que Dieu vienne jusque-là, ce n'est pas possible. En fait, ce n'est pas digne de Dieu. Dieu est tellement au-dessus de nous que Dieu ne peut pas devenir un homme. Alors, on va essayer de creuser cette question pour voir concrètement ce que ça veut dire. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que Jésus est vraiment homme ? Vous verrez, aujourd'hui, je ferai pas mal référence à ce qu'on appelle des hérésies. Donc des hérésies, hérésie, ça veut dire erreur. Et donc, quand on parle d'hérésie, c'est en fait une erreur qui est eue par rapport à la foi. Vous savez que la foi, bon, bah, il y a eu la révélation qui a été faite, on a transmis les Écritures saintes, mais ensuite l'Église a mis du temps et continue encore aujourd'hui d'approfondir ce que veut dire la révélation de Dieu, et en fait retranscrire dans des mots qu'on comprend, qu'on peut comprendre, le mystère même de Dieu. Ça, c'est tout l'effort de la théologie, de la tradition, d'expliciter pour que nous puissions, nous croyants, comprendre notre religion, et pas simplement dire « je crois ce qu'on m'enseigne sans avoir à réfléchir ». Et donc, il y a un vrai effort, vous voyez, pour essayer de comprendre notre foi, qui est Dieu. Mais dans cet effort-là, bah parfois, il y en a qui ont dit des choses et qui se sont trompés. Et donc, parfois, on se trompe. On va dire, bah, tu t'es trompé. Et du coup, on va dire, bah, désolé, je me suis trompé. Donc, en fait, je ne pense plus ça. Parfois, on se trompe. On dit, tu t'es trompé. Et toi, tu dis, non, je ne me suis pas trompé. Si, tu t'es trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Et ça, ça fait une hérésie. C'est en fait quelqu'un qui va persister dans une erreur. Et qui, généralement, va se couper de la foi chrétienne. Et parce qu'il est sûr de son idée. Donc, en fait, la question fondamentale a été d'abord de dire, bon, en fait, est-ce que Jésus était vraiment homme ? Parce que ça se trouve, si c'est Dieu qui descend, ben, en fait, c'est un faux homme, quoi. Il s'est déguisé, quoi. Mais en vrai, c'était pas un homme, c'était Dieu qui avait une apparence d'homme. Ou alors, il y en avait d'autres qui disaient, si, Jésus, c'était bien un homme, mais du coup, il n'était pas vraiment Dieu, quoi. Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de creuser. La première question, c'est, est-ce que Jésus était vraiment un homme ?
Oui.
Vous voyez, c'est intéressant. En fait, quand on regarde les évangiles, dans les évangiles, Jésus est vraiment présenté comme un homme de son temps. On n'essaye pas de présenter Jésus, vous voyez, comme un fantôme qui n'aurait pas besoin de manger, pas besoin de boire. Et c'est intéressant. Là, je vous ai fait toute une petite liste avec des passages de l'Écriture sainte. Alors, si vous avez un petit peu de temps, vous pourrez aller voir ces différents passages. Mais où, en fait, la Bible souligne l'humanité de Jésus. Ce n'est pas quelque chose que la Bible essaye de cacher. De dire, en fait, on va pas trop montrer que Jésus était homme. Non, en fait, ça fait vraiment partie de ce qu'on reçoit dans la parole de Dieu. Donc, vous voyez, on nous dit qu'on connaît sa famille. Il était fils d'un charpentier. C'est la fête qu'on fêtera demain. Hein. Demain, c'est la Saint-Joseph. Il était fils d'un charpentier, on connaît sa mère, elle s'appelle Marie, on sait qu'il a passé son enfance à Nazareth, qu'il a grandi comme, vous voyez, un enfant de son temps. Et notamment, on voit différents épisodes dans la Bible où Marie et Joseph vont se conformer à la loi juive, et donc ils vont aller faire différents pèlerinages à différentes étapes de la vie de Jésus. Vous voyez, jusqu'à là, Jésus, il n'a pas une enfance différente des autres enfants de son temps. Et on nous dit même à un moment, Jésus grandissait en taille, en sagesse et en grâce. C'est-à-dire que Jésus a vraiment grandi en taille, en sagesse et en grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a appris des choses. C'est-à-dire que Jésus, quand il avait un mois, il ne parlait pas anglais, il ne parlait pas... Vous voyez, c'était un petit enfant d'un mois qui faisait areux, areux et qui... Et qui a appris à... Enfin, je ne sais pas si je fais bien le bébé d'un mois, mais... Non, mais qui a appris à parler, qui a appris à compter, qui a appris à faire le métier de son père, de charpentier. Et puis, il y a vraiment... Vous voyez, Jésus, il n'est pas né avec tous les pouvoirs du monde. Et en gros, il aurait fait semblant d'avoir une enfance, même si on a très peu de choses sur son enfance. Mais l'évangile va plus loin. On va nous dire que... Bon, alors, effectivement, il a soif. C'est ce qu'on avait l'évangile il n'y a pas longtemps avec la Samaritaine. Jésus a soif, il est fatigué. Mais on nous dit même que Jésus va pleurer. Pleurer de chagrin devant Jérusalem. Il va pleurer à la mort de son ami Lazare. Vous voyez, c'est pas un... il n'a pas pris une fausse humanité où du coup, il ne serait pas touché par ce qui peut nous habiter, nous, en tant qu'être humain, par la question de l'amitié, par la question de la souffrance, par... Vous voyez, c'est un... Enfin, j'insiste sur ça parce que là, ce que je dis, ça peut sembler très... enfin, normal. Mais quand je vous parlais d'hérésie, souvent, ce qu'on disait, c'est « Ok, oui, Jésus, il a mangé comme tout le monde, il a bu comme tout le monde, il a dormi comme tout le monde, ok. Mais il n'a pas souffert. C'est pas possible. Dieu, que Dieu, il mange, ça, on s'en fout. Par contre, que Dieu souffre, ça, c'est inconcevable. » Alors qu'en fait, vraiment, là, j'insiste sur ça, c'est que quand on dit que Jésus est vraiment homme et quand on regarde les évangiles, on ne nous présente pas un... En fait, Jésus n'a pas triché avec notre humanité. Quand Jésus se fait homme, il se fait homme jusqu'au bout. Ok ? Donc il traverse les mêmes choses qui nous habitent, que ce soit nos joies, nos peines, les manquements qu'on peut avoir. Ça va ? Mais donc en fait, quand on dit ça, on va même plus loin, c'est que la trajectoire de Jésus s'inscrit dans un lieu et dans un espace particulier. Vous voyez, Jésus, c'est un juif du 1er siècle. Ok ? Vous voyez, c'est important parce qu'en fait, pour comprendre Jésus, du coup, il faut aussi comprendre le lieu dans lequel il a grandi, dans lequel il s'est déployé. C'est hyper important parce qu'en fait, la judaïté de Jésus est importante pour comprendre, vous voyez, la façon dont il vient sauver l'humanité. Il aurait pu venir dans différentes autres cultures, mais on a vu dans le parcours Alliance qu'il y a une cohérence parce que Dieu a choisi un peuple. Pourquoi ? Pour rejoindre tous les peuples, ça c'est hyper important, parce que parfois on dit, ok, élection du peuple d'Israël, ça veut dire que du coup, Dieu se fout des autres peuples. Dès le début de l'Alliance, Dieu dit, je choisis Israël pour rejoindre toutes les nations. Comme aujourd'hui, vous choisissez vous pour rejoindre d'autres. Et peut-être que si vous êtes ici, c'est parce qu'il avait choisi quelqu'un pour venir vous chercher. Vous voyez, Dieu choisit toujours pour aller vers d'autres. Donc l'élection du peuple d'Israël, c'est en vue de toute l'humanité. Et donc Jésus arrive dans ce cadre-là, dans ce peuple-là, et on voit bien avec Jésus que sa mission va se déployer bien au-delà du cadre d'Israël. Mais n'empêche que Jésus a grandi comme homme dans ce lieu-là. Ça va ? Donc là, il y a une phrase que donne le Concile Vatican II qui dit... La nature humaine, enfin l'humanité, a été assumée par Jésus et pas absorbée. Bon, ça fait partie des trucs un peu complexes, c'est pas très grave si c'est pas tout, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, vous voyez, c'est que c'est pas... Il y a Dieu qui dit, ok, pour me révéler, je vais devenir homme, mais comme il est vraiment Dieu, en fait, l'humanité va être comme absorbée à l'intérieur de sa divinité, et du coup, Jésus n'est plus vraiment homme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je répète une fois parce que c'est un peu complexe. L'absorption, c'est quoi ? C'est dire la divinité, c'est quand même beaucoup plus grand que l'humanité de Jésus. Et donc, en fait, si Dieu veut vraiment devenir homme, ça veut dire que l'humanité va être absorbée et va carrément disparaître, quoi, dans sa divinité. Honnêtement, franchement, c'est pas grave si j'en vois plein qui font ses sourcils. Mais en fait, Jésus n'a pas voulu ça. Jésus a assumé l'humanité, il ne l'a pas absorbée. C'est-à-dire qu'en fait, il a choisi vraiment d'être homme de A à Z. Retenez juste ça. Jésus a choisi d'être homme de A à Z. Et donc, même si nous, on pourrait se dire, bon, en fait, s'il est Dieu qui prend l'humanité, il va forcément l'absorber. Et c'est sa divinité qui va prendre le dessus, entre guillemets. Ben, ce n'est pas ça. C'est que Jésus a choisi d'assumer. Et vous voyez, la Bible parle d'abaissement. Hein. Il s'est abaissé. Prenant la condition de serviteur, voyez, donc vraiment un abaissement de Dieu qui vient prendre notre humanité. Ça va sur ce premier truc ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Jésus va aller jusqu'au bout quand il va donner sa vie par amour pour nous. Et là, on apprend quelque chose de nouveau sur la façon dont Jésus va vivre son humanité. C'est dans une prière qu'on entendra bientôt, c'est la prière à Gethsémani. Vous savez, Gethsémani, c'est ce jardin où Jésus, avant d'être livré et d'être crucifié, il va aller passer une nuit dans un jardin avec ses apôtres et il va prier. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'agonie de Jésus à Gethsémani, c'est-à-dire que Jésus sait qu'il va mourir et Jésus est traversé par la peur, par l'angoisse. Il y a cette parole qui est très belle. Il dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi, cependant, que soit faite non ma volonté, mais la tienne. » C'est intéressant, hein. Il est en train de dire, ok, je sais que je vais mourir, Dieu, s'il te plaît, épargne-moi ça, et en même temps, que ta volonté soit faite. Et là, on voit très bien que Jésus, comme tout homme, vous voyez, ne veut pas la mort, ne peut pas vouloir la mort. Vous voyez, ce qui fait le cœur de notre existence, c'est le fait que l'on va manger, on va boire, parce qu'on ne veut pas périr. Vous voyez, la préservation de l'être chez l'être humain, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, on va vivre de façon à ne pas mourir. C'est pour ça qu'il y a un drame autour de la question du suicide, par exemple. Et vous voyez, c'est jamais un choix qui est fait dans une situation où tout va bien. Donc, en fait, concrètement, les hommes ne veulent pas la mort. Et donc là, on voit bien ça avec Jésus. Jésus ne peut pas vouloir la mort. C'est pour ça qu'il dit, Père, que cette coupe s'éloigne loin de moi, quoi. Et en même temps, c'est là qu'on voit que pourquoi Jésus s'est fait homme ? Pour nous sauver. Et donc là, on commence à percevoir le cœur de la mission de Jésus, qui va être de dire, en fait, je suis prêt à dépasser ce truc-là, qui est propre à mon humanité, qui est le fait de ne pas vouloir la mort, parce que, par amour, je vais être prêt à donner ma vie. Et donc il va dire, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc là, on voit, vous voyez, vraiment, le fait d'aimer jusqu'au bout. Et, moi, il y a un saint que j'aime beaucoup, Saint-Maximin Kolb, qu'on voyait avec les enfants du caté dimanche dernier. C'est un gars, c'est hyper beau, parce que donc il était prêtre, et il était au camp d'Auschwitz. Et un jour, il y avait eu une... c'était quand même il n'y a pas très longtemps. Et un jour, il y a des personnes qui s'échappent du camp. Et donc, ils rassemblent, les Allemands rassemblent tous les prisonniers sur la place et ils en choisissent un au hasard pour le tuer. Et donc, ils prennent un monsieur et ce monsieur tombe par terre en disant « Non, je vous en supplie, j'ai 3 enfants et je ne peux pas mourir comme ça et les abandonner. » Et là, ce prêtre-là qui était juste derrière a dit « Moi, je donne ma vie à sa place. » Et donc, il est mort à la place de ce père de famille. Et ce qui est très beau, c'est quand ce prêtre a été béatifié, canonisé, eh ben, le père de famille a témoigné, qui était lui, du coup, encore en vie, et a témoigné de cet acte qu'avait... Ben, vous voyez, là, typiquement, il n'y a que l'amour qui peut nous passer et qui peut nous pousser à faire quelque chose que notre humanité ne peut pas vouloir. Notre humanité ne peut pas vouloir la mort. L'amour, le fait de vouloir quelque chose de plus que notre humanité, permet de faire des actes héroïques comme ça. Donc vous voyez, Jésus, il va aller vraiment jusqu'au bout de notre humanité, et en même temps, on voit que chez lui, il est là pour une seule raison, pour nous sauver. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, dans cette dynamique de nous sauver, Jésus va montrer qu'il est à la fois obéissant à son Père. On voit ça souvent dans l'Évangile. Jésus obéit à son Père. Et en même temps, il est mû par l'Esprit-Saint. On dit souvent Jésus mû par l'Esprit-Saint. Et vous savez que ça, c'est un des cadeaux qu'on reçoit au baptême, c'est un des cadeaux qu'on reçoit à la confirmation, que certains vont vivre parmi nous, C'est le fait de vraiment recevoir l'Esprit Saint, quoi, l'Esprit même de Dieu qui habite en nous. Et Jésus est vraiment homme, mais un homme habité par l'Esprit Saint, comme chacun de nous par le don du baptême. Je ne sais pas si vous avez vu, sur la première page, j'ai mis une phrase de Saint Irénée, qui est hyper belle, qui a donné lieu à un chant qu'on entend de temps en temps, mais c'est « Notre Dieu s'est fait homme ». Dieu s'est fait homme, pourquoi ? Pour que l'homme devienne Dieu. Le but de l'incarnation, c'est à la fois de nous révéler le Père, mais c'est de nous dire « Les cocos, vous êtes faits pour beaucoup plus que ce que vous vivez sur cette terre, vous êtes faits pour vous-même devenir des dieux. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. » On y reviendra. Donc là, première phase, vous voyez que Jésus, et on peut vraiment dire que Jésus est homme. Ça, c'est un truc, en tout cas, que nous montre l'Écriture sainte. Et en même temps, dans cette même Écriture, on nous montre que Jésus est vraiment Dieu. Je ne sais pas si ça vous parle, le tout début de l'évangile de Jean, il y a un discours un peu poétique qu'on appelle le prologue de Jean. Et dans ce prologue, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair, ça veut dire quoi le Verbe s'est fait chair ? C'est un peu compliqué, mais ça veut dire la parole, le Verbe c'est la parole de Dieu s'est fait chair, la parole de Dieu est devenue un homme. Et la parole de Dieu dans la Trinité, c'est celui qu'on appelle le Fils. Quand vous entendez le Verbe, quand vous entendez la parole, c'est la même chose que de dire Jésus, c'est la même chose que de dire la deuxième personne de la Trinité. Bon, franchement, en préparant ce truc, c'est un incontournable de la foi chrétienne, donc en fait on est obligé, mais ça prendra peut-être du temps, et je terminerai aussi par ça, de voir comment en fait petit à petit on avance, vous voyez, donc honnêtement, j'ai juste pas envie que vous repartiez en vous disant c'était beaucoup trop, et donc retenez ce que vous avez à retenir, si vous comprenez pas tout, c'est pas grave, ok, et après on aura un temps de questions-réponses où vous pourrez, mais donc, vous voyez, on voit dans ce prologue-là que le Verbe, celui qui se fait chair, Saint Jean nous dit, ce Verbe était auprès de Dieu, ce Verbe était de toute éternité. Celui qui est de toute éternité, c'est qui ? C'est Dieu. Donc cette personne qui devient un homme, Jésus, est de toute éternité, c'est-à-dire est Dieu. Donc là, c'est un truc encore plus complexe. Franchement, pardon, hein. Mais après, on ne fait pas les questions. Mais, vous voyez, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Dieu, Jésus, est de toute éternité. Et en même temps, il y a un moment où, dans le temps, il va devenir un homme. Ça va, ça ?
Oui.
Dieu est de toute éternité. Mais il y a un moment, quand il va naître, il va être le fils de la Vierge Marie, il va vraiment naître comme homme. Donc Dieu est de toute éternité, là, il n'y a pas de début ni de fin, mais il y a un moment où Jésus commence à être homme. Et c'est ce moment, c'était il y a 2026 ans, quand Jésus va naître dans le sein de la Vierge Marie. Okay, donc il faut tenir les deux, c'est important. Parce qu'en fait, soit on peut dire, ok, donc ça veut dire qu'en fait Jésus avant n'existait pas, et en fait le jour où il naît dans la Vierge Marie, enfin de la Vierge Marie, là ça y est, Jésus commence à être. Ce que nous dit la première lettre, l'évangile de Jean, c'est qu'à la fois Dieu est de toute éternité et qu'il y a un moment où celui qui est de toute éternité rentre dans le temps, et c'est ce qu'on appelle la naissance de Jésus. Alors, pourquoi je dis que c'était une difficulté pour les chrétiens de bien comprendre ce mystère ? Je passe à la page 3. Je vous inviterai, j'avais mis quelques références à relire à chaque fois pour essayer de rentrer un peu plus en profondeur. Mais, vous voyez, en fait, Dieu aurait pu nous sauver de plein de façons. Dieu aurait pu nous sauver juste en claquant des doigts. Dieu, pardon ? C'est pas possible ?
Ça serait trop simple.
Non, mais il aurait pu, en fait. En gros, Dieu, ça, il y a quelque chose d'assez mystérieux dans la façon dont Dieu a voulu sauver l'humanité. Mais en soi, Dieu aurait pu faire de la façon dont il voulait. Et là, la façon dont il l'a voulu, c'est par le fait de la venue de Jésus sur cette terre. Parce que, en fait, pour le salut, il fallait à la fois que ce salut vienne de Dieu. Et en même temps, le projet de Dieu, c'était vraiment, vous voyez, que l'homme et la femme retrouvent cette alliance qui était l'alliance pour laquelle l'humain avait été créé. Et donc, il fallait à la fois que celui qui sauve soit vraiment Dieu pour pouvoir sauver, et en même temps, qu'il soit vraiment homme pour pouvoir sauver toute l'humanité. Là, il y a un principe que je vous ai cité, c'est tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Ou au contraire, tout en positif, tout ce qui est assumé est sauvé. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a voulu assumer de notre humanité, c'est-à-dire l'entièreté de notre humanité, tout a été sauvé, c'est-à-dire notre intelligence. Jésus a réfléchi d'une intelligence humaine. Jésus a exercé une volonté humaine. Notre volonté est aussi sauvée. Vous voyez ou pas ?
C'est la condition humaine.
Non, mais toute notre condition. Mais ça, c'est hyper important. Parce que, en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y en a, par exemple, qui vont dire, très bien, Jésus était vraiment homme, mais en même temps, sa volonté, elle était divine. Mais si sa volonté, elle était divine, ça voudrait dire que Jésus n'a pas assumé notre volonté humaine, et donc que notre volonté humaine n'est pas sauvée. J'en vois qui froncent encore les sourcils. Méditez sur ça. Vous en parlerez en frat. Non, mais vous voyez, en fait, je vous dis ça parce que, pour le coup, vous aurez toute votre vie chrétienne pour déployer cette question. Mais concrètement, ça implique énormément de choses. Parce que quand vous allez vous dire, « Ok, en fait, je veux vivre comme chrétien. » C'est compliqué de vivre comme chrétien. Il y a des actes de notre volonté à poser. Il faut faire des choix parfois forts. Parfois renoncer à certaines choses. Donc c'est notre volonté qui doit être impliquée. La volonté, vous savez, c'est le fait de pouvoir poser un choix, de choisir et de s'y tenir. Bon, si notre volonté, elle n'est pas sauvée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre volonté, elle est vouée à l'échec. Si on dit que Jésus est allé jusqu'à assumer notre volonté humaine et qu'il l'a sauvée, ça veut dire qu'avec la grâce de Dieu, même notre volonté a été sauvée. Et donc aujourd'hui, moi, même si ce n'est pas facile, je sais que Dieu est là aussi dans l'exercice de ma volonté. Ce n'est pas simplement « débrouille-toi et puis on verra à la fin ». C'est-à-dire que quand je me rends compte que pour vivre comme chrétien, je suis obligé de faire un choix difficile, ben Jésus, il est là, quoi. Il ne dit pas « avec ce choix-là, tu te débrouilles ». Parce qu'il a assumé aussi cette volonté, le fait, vous voyez, quand je vous prenais l'exemple tout à l'heure de Gethsémani, quand Jésus dit « non pas ma volonté, mais la tienne », et que Jésus va donner sa vie, là, il y a un acte de sa volonté humaine qui va être de dire, même si je n'ai pas envie d'aller mourir, par amour pour les hommes, pour l'humanité, je vais y aller. Et vous, quand vous vous direz, franchement, ça me saoule de faire telle ou telle chose, pourtant je sais que par rapport à ma foi, il faudrait que je le fasse, et ben, tac, ben, moi aussi, je vais y aller. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'en fait, tout ce qui est assumé et sauvé va... C'est un principe qui est important parce que Jésus va tout assumer de notre humanité. Et donc, il n'y a pas un aspect de notre vie d'homme et de femme aujourd'hui de 2026 qui n'a pas été assumé par le Christ quand il est venu et qui donc échappe au salut, quoi. Il n'y a pas un aspect de votre vie qui échappe au fait que Dieu soit venu vous sauver. Même le travail. Même l'éducation. Enfin, le temps de toute galère. Vous voyez ? Dites-vous que c'est aussi dur pour moi, hein, parce que j'essaye de... Alors, simplement, en gros, dans les grandes étapes, au début, le premier truc qu'on a nié, c'était la divinité de Jésus. Donc ça, c'est un gars qui s'appelle Arius. Alors ça, retenez pas son nom, on s'en fiche. Mais ça a donné l'arianisme, parce que le gars, il s'appelait Arius, donc on a dit arianisme, vous voyez. Et donc, l'arianisme, c'est quoi ? Ça a été de dire, en fait, Jésus, c'est un super-homme. Franchement, hein. Il faisait beau, il faisait le bien. Et ça, on l'entend beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste un peu sur ça, parce qu'on l'entend. Mais Jésus, c'est un super homme. En fait, il a fait le bien autour de lui. C'est hyper beau. En fait, il avait des belles valeurs, Jésus. Et c'était très beau. Et en fait, si on peut imiter Jésus, c'est parce qu'il était dans ce qu'il a vécu. C'est quelqu'un qui est imitable. Parce que Jésus, il a fait le bien autour de lui. Jésus, il est gentil, il a pardonné. Et donc, Arius dit, en fait, Jésus, c'est un super homme. Bravo. Et en fait, il faut qu'on l'imite. Mais il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas vraiment Dieu. Donc il a imité pour nous, mais il n'est pas Dieu. Et donc qu'est-ce que va dire l'Église pour répondre à Arius ? Il va dire que le Fils est consubstantiel au Père. J'ai gardé ce mot compliqué parce qu'en fait on l'entend dans le credo. Vous savez qu'il y a deux credos, donc on ne comprend pas toujours le même. Mais dans un des credos, est-ce que ça, vous avez déjà entendu ce mot consubstantiel au Père ou pas ? Ça dépend des credos, mais je ne sais pas en fonction de la messe dans laquelle vous allez. On entend ce mot consubstantiel au Père. Ça veut dire quoi, consubstantiel ? Ça veut dire la même substance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est vraiment Dieu comme le Père.
C'est métaphysique.
Retenez que ça. Enfin, peu importe ce qui est, ce que veut dire substance, tout ça. Je serais heureux de vous expliquer. Mais en gros, en fait, Jésus est Dieu comme le Père. Donc quand vous direz la prochaine fois à la messe consubstantielle au Père, vous direz ce que je suis en train de dire là, c'est que Jésus, en gros, c'est l'égal du Père. Que nous, souvent, dans notre imaginaire, on a, comme on fait au nom du Père en haut et du Fils en bas, on dit, ben, le Père, il est en haut, donc en fait, même, on se pose dans une sorte de hiérarchie, quoi. Il y a Dieu qui est tout en haut, Dieu le Père qui est tout en haut, mais en fait, Jésus, il arrive un peu en dessous, mais d'ailleurs, en fait, c'est normal parce qu'il est homme, donc il n'est pas au même niveau. Bon, l'Esprit Saint, on le met sur le côté parce qu'on ne sait pas trop où il est. Non, mais vous voyez, en fait, on a ça aussi dans notre pensée. Le Fils est en dessous du Père. Et là, quand on vous dit consubstantiel au Père, quand on va répondre à Arius que non, Jésus, ce n'est pas simplement un super-homme, mais que Jésus est vraiment Dieu, ça veut dire que, vous voyez, il n'y a pas le Père et le Fils, mais que le Père est comme le Fils Dieu. Et plus tard, on dira la même chose de l'Esprit Saint. Donc ça, c'était le premier truc qui a bloqué. Mais ensuite, inversement, en fait, après, on s'est dit, bon, ben, Jésus, eh ben, ok, il est vraiment Dieu, mais dans ce cas-là, il n'est pas vraiment homme. Vous savez qu'un des gros problèmes, ça a été la question de la crucifixion. Est-ce que Jésus peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Et Nietzsche dit, Dieu est mort. Ça fait bondir les chrétiens. Dieu est mort. Dieu ne peut pas mourir. Pourtant, est-ce que Jésus est mort? Est-ce que c'est la nature humaine qui est morte? Non, mais c'est intéressant, vous voyez. C'est là où, en fait, on se rend compte qu'il y a des vraies questions derrière. Et vous voyez, il ne faut pas simplement dire, bon, c'est des hérésies, ils sont trompés, ils auraient mieux fait de bien apprendre leur catéchisme. Mais en fait, quand on dit que Jésus meurt, si Jésus est vraiment Dieu, ça veut dire que Dieu est mort. Et en même temps, on ne peut pas dire que Dieu est mort, parce que Dieu n'est pas, vous voyez, dans l'éternité, donc il n'est pas soumis au changement, il n'y a pas de naissance ni de mort en Dieu. Et donc, ce qu'on va dire à ce moment-là, c'est que, vous voyez, il y a une personne en Jésus, mais que cette personne a deux natures, une nature humaine et une nature divine. Et il y a des actes qui vont être posés par Jésus qui seront communes à sa nature humaine et divine, mais qu'il va vivre dans son humanité ou dans sa divinité. Donc la formule exacte pour dire que Jésus est mort et qu'il était Dieu, c'est qu'on peut très bien dire Dieu, qui est de toute éternité, est mort dans sa nature humaine. Okay, que Dieu de toute éternité est mort dans sa nature humaine. Donc c'est vraiment Dieu. Et de la même manière, après on va se poser la question, est-ce qu'on peut dire que Marie est mère de Dieu? Parce que Dieu, on a dit, il n'y a pas de naissance, il vient de le propre de Dieu. Vous voyez, la définition philosophique de Dieu, vous voyez, c'est un être qui n'a pas de principe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui lui donne d'être. Donc on ne peut pas dire que Dieu a une mère. Pourtant, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés dans la crypte de Saint-Nizier? Bon, ben, la prochaine fois que vous allez dans la crypte de Saint-Nizier, si vous avez la chance d'y aller, elle est très belle. Il y a une grande mosaïque et il y a un mot, il y a marqué Théotokos.
La mère de Dieu.
Ouais, il y a marqué, vous regarderez, il y a Marie au milieu de la crypte et en dessous, il y a marqué Théotokos. Théotokos, en grec, ça veut dire mère de Dieu. Bravo. Ouais, ça veut dire mère de Dieu. Et pourquoi, en fait, on a donné ce titre à Marie après de nombreux débats? C'est parce qu'on a dit « Marie est la mère de Dieu dans son humanité, dans sa nature humaine. » Ça va? Donc, c'est une même personne en deux natures. Ok. Non, mais après, il faut que je laisse du temps pour les questions, parce que... Voilà. Bon, je vais passer sur le reste. Mais vous voyez, en fait... Ce qu'il faut retenir de ces petits éléments-là, c'est que, en fait, dans l'histoire de cette question-là, il y a toujours eu deux visions. C'était soit une vision descendante, c'est-à-dire, en gros, on part du principe que Jésus est Dieu, et du coup, on descend pour voir ce que ça implique dans son humanité. Soit on part d'en bas, on part du principe que Jésus est homme, et on remonte pour essayer de voir, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Jésus homme, est-ce qu'il est vraiment Dieu. Et qu'en fait, dans les deux cas, il y a des risques. Parce que quand vous partez du haut pour aller vers le bas, vous dites « Ok, Jésus est Dieu. » Mais vous descendez et en fait, le risque, c'est de dire « Mais il n'est pas vraiment homme. » Ou en tout cas, il n'est pas homme jusqu'au bout. Ce qui fait, par exemple, que vous voyez, une hérésie qui dira que Jésus, par exemple, au moment de mourir sur la croix, et ça a été repris notamment par les musulmans, mais au moment de mourir sur la croix, Jésus se serait échappé dans sa divinité et c'est quelqu'un qui serait mort à sa place. Parce que ce n'est pas digne de Dieu de mourir sur une croix. Donc c'est-à-dire qu'il aurait pris, vous voyez, il aurait pris l'humanité presque jusqu'au bout et il se serait arrêté au moment de la mort parce que là, c'était plus possible, quoi.
Ça, c'est en réflexion.
Oui, alors qu'en fait, vraiment, notre foi chrétienne, c'est de dire que, ok, on part d'en haut, mais on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il allait jusqu'à mourir comme homme. Donc c'est vraiment Jésus qui meurt sur la croix, c'est pas un remplaçant, quoi. Il n'a pas dit, coach, je vais rentrer quelqu'un, quoi. Et inversement, quand on part du bas, quand on part de Jésus homme, de Jésus de Nazareth, et qu'on veut remonter pour essayer de dire, ben, en fait, comment cet homme est vraiment Dieu, et ben, on va tomber, généralement, on va tomber comme Arius, dans le fait de dire, ok, en fait, c'est un super homme, il a vraiment beaucoup de qualités et tout, mais c'est pas vraiment Dieu, quoi. Il est un peu entre les deux. Vous voyez ? Donc, il faut tenir les deux. De temps en temps, dans votre prière, il faut contempler vraiment l'humanité de Jésus, le fait que c'est un homme comme nous, et en même temps, donc partir du bas, contempler Jésus vraiment du bas, et d'autres moments, vraiment, de contempler de haut, de dire, bah, en fait, ce Jésus-là, il est vraiment Dieu, celui qui me dépasse infiniment, celui qui est de toute éternité. Alors, je prends simplement 5 minutes pour apprendre un vrai temps de questions-réponses, mais pourquoi, en fait, ce mystère de l'incarnation, il est si central ? J'en ai un peu parlé avec la question de assumer tout ce qui est assumé et sauvé. J'espère que vous ne ferez pas de cauchemar avec cette question d'assumer ou je sais pas quoi. Mais en fait, il y a deux choses qui sont hyper importantes là-dedans. C'est de dire que Dieu est vraiment venu nous sauver et pour ça, il a pris notre humanité. Et donc, vous voyez, si Adam et Ève avaient désobéi et par là le péché était entré dans le monde, Jésus, par son obéissance, nous a apporté à chacun le salut. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va vivre pendant le Triduum Pascal. Vous savez qu'il y a Pâques qui approche. Vraiment, je vous invite à contempler pendant ces 3 jours le fait que Jésus soit allé jusque-là par amour pour nous. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé La Passion de Mel Gibson, qui est très beau, qui est un film très beau, qui est assez fidèle aux écrits bibliques. Donc c'est vraiment un film à regarder. Alors, c'est pas un film détente du samedi soir, mais voilà, moi ça m'avait beaucoup marqué. Je m'en souviens, je l'avais vu pour la première fois. J'étais en première année de prépa et j'avais prévu avec des potes d'aller boire des bières après. Et donc, je me pose en première partie de soirée à regarder ce film là. Et ça m'avait tellement chamboulé, et c'est rare, que j'avais dit à mes potes, bon, je vous rejoins pas au bar. Et en fait, c'était très beau parce que ça m'avait donné de plonger dans ce que Jésus avait fait pour moi. Et en fait, c'est vrai que je ne m'en rendais pas forcément compte en lisant les Écritures ou le fait de voir en image à quel point Jésus m'a aimé. Et c'était hyper beau. Donc, vous voyez, la première chose à contempler sur ce mystère de l'incarnation, c'est que Dieu ne nous sauve pas de loin, quoi. Dieu n'est pas là-haut en train de dire « Tac, ah, ça y est, t'es sauvé, tac, t'es sauvé. » Ou... En fait, il nous rejoint. C'est trop beau de voir qu'en fait, Dieu est un Dieu qui se fait toujours proche. Alors qu'il aurait pu choisir plein d'autres moyens de nous sauver. Ben, c'est un Dieu qui dit, en fait, mon amour pour vous va jusqu'au point de venir vivre ce que vous vivez. C'est franchement, je vous invite à méditer sur ça ces prochaines semaines là, et autour de Pâques. Hein. Jésus aurait pu ne pas du tout se mouiller pour nous. Et en fait, Dieu nous aime tellement qu'il va jusqu'à nous montrer qu'il souffre avec nous, qu'il souffre pour nous. Par amour pour nous. Il ne dit pas simplement « je vous aime », il le montre. Donc ça, c'est un des premiers éléments qui est important. Et ensuite, la deuxième chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si Jésus assume notre humanité, c'est parce qu'il vient tout sauver de notre humanité pour nous donner de nous aussi de vivre pleinement de cette grâce de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voyez, par le baptême qui nous est donné, le cadeau qui nous est fait, c'est qu'à la suite de Jésus, Jésus nous révèle en fait pleinement quelle doit être notre humanité. En fait, quand on dit qu'il faut imiter Jésus, c'est pas simplement, vous voyez, Jésus qui est un super modèle qu'on regarde de loin. C'est qu'en fait, Jésus est venu vivre comme nous pour que nous puissions vivre comme lui. Ça va, le truc ? Jésus est venu vivre comme nous pour que nous puissions vivre comme lui. Avec cet esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous donne des hommes et des femmes qui se déploient. On n'est pas fait pour la médiocrité, on n'est pas fait pour... En fait, on est fait pour aimer, on est fait pour pardonner, on est fait... Et c'est pas simple. Et c'est pour ça que Jésus est venu vivre comme nous. En fait, Jésus nous révèle ce qu'on doit être réellement. Et c'est là où vous voyez, il y a quelque chose d'hyper profond. c'est qu'une chose et que je vous dise, allez, il faut faire ça, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Autre chose, et je veux dire, bah, en fait, Jésus, Dieu nous donne un itinéraire pour avancer. Et en plus de ça, il vient nous montrer comment le vivre. Jésus l'a vécu. Et si Jésus l'a vécu en tant qu'homme, et ben nous, comme hommes et femmes de 2026, on peut le vivre avec lui. Et c'est le but de notre vie chrétienne. La sainteté, vous voyez, c'est au maximum d'essayer de laisser Dieu vivre en nous. Le don de l'Esprit Saint qui nous est fait, c'est le même Esprit qui habitait Jésus. Alors, c'est pas simple, on avance, on a chacun notre rythme, on a chacun nos galères, on a chacun... Et en même temps, bah, au fur et à mesure, ça va être votre joie, quoi. De voir qu'on avance. Le plus triste dans la vie chrétienne, c'est quand on arrête d'avancer. Vous voyez, quand on se dit, soit ça y est, je suis arrivé, je suis un chrétien accompli. Ça y est, plus besoin. J'ai trouvé mon rythme de croisière, maintenant je... En fait, c'est hyper triste. Parce que sinon, on nous invite à toujours plus, quoi. Toujours mieux aimer, toujours mieux avancer, toujours mieux prier. Et en même temps, on se rend compte que bah, la vie, c'est pas juste comme ça. Parfois, on retourne un peu en arrière, parfois... Vous voyez, en fait, le cap, c'est celui de la sainteté. Je veux dire, mon cap, c'est de laisser Dieu toujours plus vivre en moi, malgré les fois où je vais retomber. Je sais pas si vous avez déjà vécu un chemin de croix. Si vous ne l'avez pas fait, c'est très beau. En tout cas, la plupart des paroisses sont en ville vendredi. Ici, à la paroisse Saint-Dizier, c'est à midi. Mais vous voyez, en fait, on refait les étapes de Jésus sur le chemin de la croix. Et Jésus, il tombe trois fois. Il y a trois fois où Jésus tombe, ce qui est quand même fou, quoi. Sous le poids de la croix, Jésus tombe. Et vous voyez, Jésus va jusqu'à nous rejoindre dans ces fois où nous aussi on tombe, et on se dit, bon, ben, en fait, il y a encore, je recevais une personne, je discutais avec elle, et c'était fou de voir comment, en fait, c'est la chute qu'elle venait de vivre, elle ne voyait pas comment elle pouvait se relever. Et pour elle, vous voyez, il y avait vraiment un... C'était pas possible, quoi. Et je sais pas si elle le fera, mais ouais, en tout cas, je vois bien que moi, quand je chute, le fait de contempler Jésus qui se relève et qui chute par trois fois... En fait, je me dis, je ne peux pas me convaincre, il n'y a que des fous qui peuvent me convaincre de ça, que je ne pourrais pas me relever. Parce que Jésus est mort pour ça, quoi. Il est ressuscité pour ça, pour me montrer que... Hop. Je m'arrête là. Je vous inviterai vraiment à prendre le temps de relire un peu, notamment... voilà, je suis passé un peu rapidement, mais on va prendre un petit quart d'heure là pour les questions. Si vous en avez, parce que c'est un sujet tellement simple qu'il n'y a pas de questions, je vais surger. Ouais.
Aussi violent, il y a quand même pas mal de batailles, pas mal de choses qui font qu'il est violent, et comment dans le Nouveau Testament, par Jésus, il est aussi plein d'amour pour l'humanité, en fait. Parce que j'ai vraiment des fois l'impression qu'en fait, on a...
De Dieu.
Voilà.
Ouais. Et ça, c'est une vraie question, parce que vous savez que ça, c'est quelque chose qui est notamment une des hérésies du premier siècle, ça a été de dire il y a un Dieu mauvais de l'Ancien Testament et un Dieu bon du Nouveau Testament. On oppose les deux. Alors, simplement, pour répondre un peu à ta question, mais si tu veux, on pourra en reparler après. Je vais les faire un peu rapidement parce qu'on s'écarte un peu du sujet. Mais il y a plusieurs choses à prendre en considération, notamment le fait que dans l'Ancien Testament, vous savez, hein, c'est pas un livre... tous les livres ne sont pas des livres historiques, c'est-à-dire qu'ils nous disent la façon dont les choses se sont passées. Souvent, dans l'Ancien Testament, par exemple, la violence, quand on voit, et notamment la question de la mort, il y a quelque chose qui est très intéressant de voir que c'est toujours... la logique du péché. Et en fait, à travers la mort, à travers la violence, ce qui est révélé de l'humanité, c'est que la seule issue possible au péché, c'est la mort. Et qu'en fait, se détourner de ce que Dieu... Et c'est pas, vous voyez, Dieu qui vient punir l'humanité, mais et ça, on le voit très bien avec... vous savez, par exemple, les Égyptiens, dans l'Ancien Testament, c'est... on parle pas des Égyptiens en tant que peuple égyptien, mais le symbolisme du peuple égyptien dans l'Ancien Testament, c'est le peuple de l'esclavage, le peuple de la mort. Vous voyez, quand tous les Égyptiens vont mourir dans la mer Rouge, ce qu'on n'est pas en train de nous dire, c'est trop bien, Dieu s'est enfin vengé en faisant mourir tout le monde dans la mer Rouge, mais c'est de dire, la logique de la mort, elle entraîne qu'à une seule chose, c'est la mort. Vous voyez, ça, c'est un élément important. C'est qu'il faut tenir à la fois qu'on n'est pas dans un livre historique qui nous dit effectivement Dieu serait là pour châtier tout le monde. Et donc, en fait, quand on voit que Dieu s'énerve, c'est parce qu'on ne comprend pas trop pourquoi les innocents sur Terre, d'un coup, sont châtiés alors que, bon, ils ont fait des petites bêtises. Mais c'est qu'en fait, ce qui nous est révélé, c'est un livre spirituel qui nous révèle, vous voyez, le projet de Dieu pour nous. Et le projet de Dieu pour nous, c'est la vie. Donc, c'est de combattre le péché. Et donc, il y a une gradation aussi dans l'Ancien Testament jusqu'à la révélation plénière de Jésus. Mais il y a aussi un dernier point que je dis sur cette question qui est importante, c'est aussi Dieu nous prend là où on en est. Vous savez que dans l'Ancien Testament, par exemple, c'est assez marrant de voir à certains moments, il va y avoir la loi du talion, par exemple, qui va arriver. On est quand même dans une période de l'histoire, dans cette région-là, où il y a une violence guerrière entre les peuples, qui est une réalité. Et notamment, vous voyez, moi, j'avais un prof de Bible qui me disait, c'est aussi une époque où, par exemple, j'allais te voler une chèvre, et toi, en échange, pour te venger, t'allais brûler tout mon village. Bon, ben, quand Dieu dit œil pour œil, dent pour dent, il y a une limitation de la violence. C'est pas la même chose, tu me voles une chèvre, je brûle ton village, je te vole une chèvre, pour te venger, tu me prends une chèvre. Et après, ça va aller jusqu'à, tends la joue droite. Jésus qui va dire, quand on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Inversement. Vous voyez, il y a aussi une pédagogie divine qui nous entraîne. Et donc, en fait, il faut... Mais effectivement, il y a aussi des... Je comprends ton interrogation. Mais il faut te dire que c'est le même Dieu, quoi.
Est-ce que Dieu, en envoyant son fils sur Terre, il avait la volonté de créer une nouvelle religion son fils, ou alors, on était dans le faux... Enfin, il trouvait que c'était pas ce qu'il voulait depuis le départ.
Ouais. Bah, vous savez, Jésus, par exemple, dans l'Évangile, souvent dit « Je ne suis pas venu à... » Enfin, il le dit même notamment quand il parle de la loi. Il dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Ça, vous voyez, c'est dans l'Église, on est tombé parfois dans la question de la rupture. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup repris ces 200 dernières années. Ça a été notamment parce que le point un peu névralgique, ça a été pour beaucoup de chrétiens de dire « Bon, bah, en fait, c'est le peuple juif qui a mis à mort Jésus. » Donc en fait, quand Jésus va fonder le christianisme, il y a une rupture avec le judaïsme. Et en fait, aujourd'hui, on comprend différemment, et en fait, on redécouvre, parce que les tensions se sont apaisées, et puis avec différents éléments historiques, que en fait, il y a une vraie continuité entre judaïsme et christianisme. Et c'est pour ça, vous voyez, par exemple, quand on travaille le parcours Alliance, qu'on passe autant de temps dans l'Ancien Testament, parce que si c'était une nouvelle religion, on vous dirait au caté, on ne regarde pas l'Ancien Testament, parce que c'est ce qui est commun aux Juifs, et nous, ça ne nous regarde pas parce qu'on est chrétien, et donc on va regarder à partir de Jésus, quoi. Et on va être que dans le Nouveau Testament et de voir ce que Dieu nous dit dans le Nouveau Testament. Vous voyez, c'est hyper important pour comprendre notre foi chrétienne, de voir comment Dieu, d'abord par le peuple juif, puis en Jésus, quand il vient accomplir tout l'Ancien Testament, c'est la même révélation, quoi. Ça, c'est important, hein. Donc, vous voyez, Jésus ne vient pas changer la religion, mais Jésus vient accomplir, vous savez que le cœur du judaïsme, c'est d'attendre un Messie. Tout est orienté vers l'attente d'un Messie, et que nos frères juifs aujourd'hui attendent ce Messie. Nous, les chrétiens, on reconnaît en Jésus le Messie qui est attendu et annoncé dans l'Ancien Testament. Il y avait une question ici.
Oui. Là.
Je précise simplement, vous avez le droit de poser des questions aussi plus simples de compréhension sur ce qu'on a dit. Hein. Vous êtes... Ok, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Que chacun se sente libre, vous voyez, de poser les questions.
Il y a un aspect de l'humanité qui n'a pas été assumé, c'est le péché.
Ouais.
Et moi, je me méfie en général des gens qui sont trop parfaits dans la vie.
Ouais.
Et Jésus, en fait, il n'a jamais péché. Comment c'est possible, ce truc-là?
Vous voyez, ça, c'est un vrai point qui est souligné. C'est-à-dire que Il a pris notre humanité en toute chose excepté le péché. C'est aussi ce qu'on dit dans le credo. Et vous voyez, il y a quand même quelque chose de... effectivement, une dimension de notre humanité que Jésus n'a pas assumée. Et en même temps, on entend en saint Paul que Jésus a porté sur lui nos péchés. Vous voyez, à la fois Jésus... et en même temps, souvenez-vous toujours que le péché n'est pas quelque chose de notre humanité, une déformation de notre humanité.
Faut-il sauver le péché ?
Faut-il sauver le péché ? En fait, Jésus est venu sauver le pécheur. Ça, c'est important, hein ? Jésus est venu sauver le pécheur, pas le péché. Non, mais c'est intéressant. Ce qui est dit, c'est que, vous voyez, Jésus n'a pas péché. Par contre, Jésus a pris sur lui nos péchés. Donc Jésus nous a réellement sauvés du péché. Jésus n'a pas dit « je vais tout prendre, sauf un aspect que vous garderez toute votre vie, et tant pis pour vous, ce sera le péché, parce que moi, je n'ai pas envie de me mouiller là-dedans. » C'est que quand saint Paul dit que pour nous, Jésus a été crucifié avec nos péchés sur la croix, c'est que Jésus, quand il meurt pour nous, apparemment, sur la croix, prend sur lui nos péchés. Vous savez, il y a une image dans l'Ancien Testament qui est la victime propitiatoire, c'est un bouc. Et en fait, une fois par an, c'est un bouc sur qui on mettait des plein de tissus, plein de trucs. Et en fait, c'était symboliquement, on lui mettait toutes les fautes de l'année qu'on avait pu commettre, on mettait sur le bouc et on l'envoyait dans le désert. C'était le bouc émissaire. Mais c'est vrai, hein, c'est de là que vient le terme bouc émissaire aujourd'hui, quand on vous dit le bouc émissaire, celui sur qui on remet toute la faute, quoi. Tout le monde se dit c'est de sa faute. Bah, le bouc émissaire, c'était ça. Et bien, vous voyez, Jésus prend sur lui, comme ce bouc émissaire, toutes nos fautes et meurt pour nous, par amour, pour nous sauver. Ça va? Ouais.
Moi, je me pose la question de la connaissance de Jésus. Si Jésus, il est 100% homme et 100% Dieu, quand il était vivant, est-ce qu'il avait une connaissance limitée comme les hommes, donc, par exemple, s'il n'avait pas parlé quand il apprenait à parler, etc. Ou est-ce qu'il savait tout? Par exemple, quand il a été triste pour la mort de Lazare, est-ce qu'il savait qu'il allait ressusciter?
Ça, vous savez, c'est une question hyper profonde, parce que typiquement, la première réponse à ça, dans l'histoire de l'Église, ça a été de dire, en fait, Jésus a appris certaines choses comme homme, typiquement, il a appris à lire et tout, et en même temps, il avait son intelligence divine qui permettait de tout connaître. Donc, on est dans un truc un petit peu, on n'arrive pas à tenir les deux. Et en fait, à un moment, on découvre dans l'Évangile que Jésus dit... vous savez, quand on lui pose la question, quand les deux disciples, enfin la mère de Jacques et Jean lui demande est-ce qu'ils pourront siéger l'un à droite, l'autre à gauche, et Jésus répond en disant ça ne m'appartient pas, je le sais, enfin, même le Fils ne le sait pas. En fait, il est en train de dire là, il y a quelque chose que Dieu le Père sait et que moi je ne sais pas. Et donc, la réponse aujourd'hui chrétienne sur cette question-là, c'est de dire que Jésus a choisi. En prenant notre humanité, de limiter aussi, vous voyez, il n'est pas arrivé avec son intelligence divine, qui était celle de sa nature divine, quoi. Donc Jésus a vraiment, il y a des choses qu'il ne connaissait pas sur cette terre. Et on le voit dans l'Évangile avec cette phrase-là. Alors est-ce que quand Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare au moment où... Ça, pour le coup, enfin, moi, je n'ai pas d'éléments sur ça, mais...
Mais du coup, un 100% Dieu, tu peux ne pas tout connaître.
En fait, vous voyez, il y a vraiment cette question d'abaissement. Hein. C'est-à-dire que quand saint Paul nous dit le Christ s'est abaissé de divin qu'il était en prenant notre humanité, c'est ce qu'on appelle la kénos, c'est un terme un peu compliqué, mais qui veut vraiment signifier le mouvement d'abaissement de Jésus. C'est que Jésus, dans ce mouvement d'abaissement, aussi assume le fait du coup d'avoir des limites humaines qu'il n'aurait pas eu comme verbe éternel de Dieu. Donc Jésus, dans son humanité, ne connaissait pas tout.
Mais maintenant qu'il est...
Non, mais vous voyez, c'est là où c'est intéressant, le terme maintenant, par exemple. Oui. Vous voyez, Jésus, enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que le verbe, enfin, une fois, Jésus, deuxième personne de la Trinité, Jésus dans sa divinité, vous voyez, il n'y a pas un moment où il a arrêté d'être Dieu, parce qu'il est descendu pendant 33 ans sur la Terre, et ensuite il est remonté, et là, d'un coup, il est de nouveau Dieu. Mais il n'y a pas eu un bug de 33 ans dans la Trinité où il n'était plus que deux. Non mais, voyez, encore une fois, hein, je vous redis, c'est des éléments compliqués et vous aurez toute votre vie chrétienne pour les reprendre ou pour les... Mais vous voyez, c'est important de dire que il n'y a pas un moment où la Trinité n'était plus que deux, quoi. La Trinité était toujours trois. Donc en fait, il n'y a eu aucun manquement dans Dieu, enfin en tout cas pour Jésus dans la Trinité. Ça va ou... ouais, pardon.
Du coup, est-ce qu'on peut dire que la nature humaine, quand elle est dépourvue du péché, elle est automatiquement divine?
Est-ce que la nature humaine, quand elle est dépourvue du péché, est automatiquement divine? C'est ça la question? Alors, non, mais vous voyez, déjà, ça, c'est marrant. Il y a eu des moments, notamment quand on réfléchissait un peu pour savoir un peu toutes ces questions, on a essayé d'imaginer une nature sans péché. Ok? Bah, en fait, concrètement, il n'y a pas de nature sans péché. En fait, on est tous marqués par le péché. Donc, vous voyez, il n'y a pas une nature qui existerait. Comme ça, sur lesquels on pourrait faire des expérimentations qui seraient des natures sans péché, c'est-à-dire que l'homme et la femme sont marqués par le péché. Ça, c'est quelque chose qui est partagé par tous. Et donc, en tout cas, ce qui est clair, et c'est la phrase que je vous avais mise en introduction, c'est que le but de Dieu, c'est de faire de nous, des dieux, quoi. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Quand on dit que par le baptême, on devient fils de Dieu, c'est que notre nature, malgré le péché, est faite pour être une nature, être plongée dans la divinité. Donc ça, vous voyez, cette question de... c'est la nature sauvée par le Christ, qui lui-même a pris notre nature, qui fait qu'en fait, on a une nature... Enfin, on est fait pour être...
Et la Vierge Marie n'est pas Dieu.
La Vierge Marie n'est pas Dieu. C'est ça la question ?
Oui, mais elle est sans péché.
Et donc, typiquement, la Vierge Marie, vous voyez, ce qu'on appelle l'Immaculée Conception, donc c'est le fait d'être sans péché, et bien il y a un moment, c'est l'Assomption de la Vierge Marie, où elle va monter au ciel, et c'est ce moment où... donc en fait, il y a... Là, à ce moment-là, tu vois un truc où, effectivement, en montant au ciel, enfin, la Vierge Marie est intégrée dans, en tout cas dans le ciel, donc qui pour nous est ce lieu où on partage la divinité de Dieu, à ce moment-là.
Tandis que Dieu a fait l'homme à son image.
Ouais.
Du coup, pour moi, ce qui différencie l'homme de Dieu après, bah, c'était le péché. C'était la chose qui nous séparait de Dieu.
Vous savez, il y a une phrase qu'on va entendre bientôt là, dans la Semaine Sainte. C'est « Heureuse faute qui nous valut un tel sauveur ». Et qu'aujourd'hui, ça c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience, c'est que l'état, notre état sauvé par le Christ, il y a un état différent et plus haut, ce qu'on va nous dire la théologie chrétienne, que celui qui était celui d'Adam et Ève au moment de la création. C'est-à-dire que par le salut apporté par Jésus, notre état, pour l'éternité, sera un état plus grand que celui qu'on peut contempler d'Adam et Ève au moment de la création. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important. C'est que, je vous donne simplement une image. Moi, une fois, j'avais oublié un pull chez des amis. Et du coup, j'avais demandé simplement s'ils pouvaient m'envoyer ce pull par la poste. Et je reçois ce pull par la poste. Et dans le colis, il y avait plein de paquets de bonbons. Mon ami me met, tu vois, c'est comme avec Dieu. Quand on oublie, quand on perd quelque chose, quand on fait une faute, on reçoit toujours la faute réparée avec une surabondance. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, quand Dieu vient nous sauver, c'est qu'il ne fait pas simplement que réparer le péché et nous rétablir dans la communion avec lui, mais il y a une surabondance qui n'est pas des bonbons, mais qui est le fait de nous dire, en fait, vous êtes élevé encore plus haut dans votre vocation qui va être de vivre pour toujours avec nous. Alors, on me fait signe, je dois m'arrêter. Merci. Franchement, n'hésitez pas à reprendre toutes ces questions. Vous voyez, c'est déjà pas simple, comme prêtre, même de trouver vous voyez, c'est des vraies questions enfin, qu'on continue de creuser. Donc, n'hésitez pas en frat à les échanger. Et n'hésitez pas aussi à faire remonter vos questions qu'on puisse échanger sur ça.
Et la suite du film, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Donc, c'est la fiche 13 qu'on vous a remise. En fait, il n'y aura pas de séance entre nous parce qu'on vous encourage à le découvrir avant la Semaine Sainte et Pâques. Pas bête, non ? Et donc, il y aura un podcast que je vais enregistrer ces jours-ci, donc on va vous envoyer le lien, qu'on vous invite à écouter en fraternité. Et vous avez l'affiche qui est une reprise de ce qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique. Malheureusement, j'ai oublié d'apporter le bouquin avec moi. C'est l'outil de référence de l'Église sur toute la foi, qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique, c'est CEC. Voilà. Et la question est de savoir pourquoi Jésus est mort et ce que ça change dans notre vie et la résurrection de Jésus, ce qu'elle change dans notre vie aussi. Et puis, pour contempler ce mystère de la mort de Jésus et sa résurrection, il y a deux icônes. Commenter sur le petit feuillet à l'intérieur pour le plaisir de la prière, de la contemplation. Ça va ? Voilà, je vous encourage vraiment à écouter le podcast et à lire ce papier pour préparer Pâques. Vraiment, ça va vous aider à rentrer dans la célébration de Pâques, hein, ce qu'on appelle le Vendredi Saint, la mémoire de la Passion de Jésus, et puis la nuit de Pâques, pour laquelle il y aura quelques baptêmes. Non ? Bon. Trentaine de baptêmes, ça va être magnifique. Voilà. Ça vaut notre vie.